Ladies and gentlemen, welcome back to the public forum.
Bienvenue au forum. Je pense que c'était bon de vous montrer la vitalité de certains visages. Donc, bienvenue ici de retour dans la salle. Nous allons commencer cette séance qui est les rapports des communautés, des comités du directoire. Donc, nous allons faire la même chose, procéder de façon alphabétique. Donc, maintenant, nous allons entendre le rapport du comité d'audit. Merci, Peter. Bonjour à tous. Moi-même, Steve Crocker et Harold Haverston, nous sommes réunis avec le personnel pour une réunion du comité. Il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je demande la deuxième diapositive. Nous avons une présentation des auditeurs externes. C'est une compagnie, Mass Adams, qui a fait une présentation pour nous et nous avons décidé de les utiliser encore pour une audit à la fin de l'année fiscale. Donc, nous avons retenu la même compagnie, mais nous avons procédé à un débat et nous savons qu'il est bon de changer des auditeurs, des vérificateurs de temps en temps. Et nous pensons qu'il fallait dire au personnel de bien de chercher de développer un nouveau RFP. Nous avons eu également un débat en ce qui concerne les opérations financières de l'ICANN et vous entendrez le comité des finances également en ce qui concerne les règles, mais nous avons débattu la formulation de principes de comptabilité transparent et responsable. Notre comité est tout à fait conscient de la préférence de la communauté d'avoir des principes extrêmement transparents. Si nous allons avoir des nouveaux GTLD, nous encourageons l'organisation à élaborer des normes très transparentes qui peuvent vous démontrer le processus de retour des coûts. Je ne peux pas bien vous voir, mais si vous avez des questions, levez la main et posez-les. Eh bien non, il n'y a pas de main levée. Vous êtes heureux de ce rapport du comité d'audit. Merci. Donc, maintenant, après A, B, maintenant c'est le comité de gouvernance du directoire et le président de ce comité, Dennis Jennings. Merci, Dennis. Je vous remercie, Peter. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante? Je peux cliquer? Eh bien, je clique. Voilà, très bien. Bien. Les membres du comité, leurs noms sont sur l'écran. Je ne vais pas les lire. Vous pouvez voir qui ils sont et j'ai le privilège et l'honneur de présider. Voilà les choses que nous avons examinées récemment. Des choses internes, les procédures normalisées qui sont disponibles comme procédures pour l'avenir, voir les chartes des différents comités, leur statut. Ces chartes seront approuvées, le projet sera approuvé à la réunion du directoire et il pourra y avoir ensuite un réexamen. Nous avons parlé des questions de formation et des sessions de formation pour les membres du directoire et toute la question de l'auto-évaluation des membres du directoire. Nous travaillons à cela et je pense qu'à Sydney, nous aurons des nouvelles. D'autres choses sur lesquelles nous travaillons, les politiques de conflit d'intérêts, il faut y retravailler, la loi a changé, il faut en tenir compte et remettre cela à jour. Nous avons débattu le cadre de l'Ombudsman également et nous avons révisé le comité du directoire et les postes de président et vice-président et le processus d'élection. Les nouveaux membres Il va y avoir de nouveaux membres et le NONCOM a nommé des candidats. Et nous allons donc revoir si tous les comités sont bien à jour et si nous avons fait quelque chose d'un peu radical. Nous avons planifié notre travail sur l'année et voir un peu vers l'avenir les travaux que nous pensons terminer et publier. Nous allons donner cette idée également aux autres comités et au directoire lui-même. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci, Denis. Y a-t-il des questions au comité de gouvernance du directoire? C'est intéressant. Merci, Denis. Et maintenant, comité des finances.
Thanks, Peter.
Merci, Peter. Voici les membres du comité, au comité des finances. Ces diapos sont sur la page du site ICANN. Je vais simplement souligner plusieurs points que vous pourriez trouver intéressants. C'est la deuxième année où nous avons un cadre pour le plan opérationnel et pour le budget en même temps. Ceci donne à la communauté environ un peu plus de 4 mois pour examiner les initiatives clés, quelles sont les opérations fondamentales et les coûts qui vont avec. Cela nous donne la possibilité de voir l'aspect stratégique, le plan stratégique et les coûts qui y sont associés. Dans le passé, nous faisions cela de façon séparée et nous ne pouvions pas relier les initiatives et les coûts. Donc, c'est la deuxième fois, l'année dernière et cette année, que nous procédons de cette façon. Sur la base d'une requête qui nous est parvenue de la communauté, c'est le rapport fonctionnel. Le plan stratégique possède des initiatives et à partir de là, nous avons capté ces initiatives clés et les rapports sont fondés sur les fonctions. Et cela, vous pouvez le voir sur l'écran. Et le cadre du budget est fait de façon à peu près semblable. Donc, vous pouvez voir plusieurs fonctions et les coûts qui y sont associés. Le nouveau programme de GTLD n'est pas mentionné en termes de revenus dans ce plan. Ce que nous espérons faire, c'est que 90 jours avant le lancement, nous allons prévoir une estimation de ces revenus. Ce que nous avons, ce sont les coûts encourus dans le nouveau programme GTLD et cela, ça apparaît dans le cadre financier. Il y aura une nouvelle comptabilité pour le nouveau programme GTLD pour qu'il soit transparent, pour qu'il y ait transparence dans la communauté et que la communauté puisse voir quel est le processus de retour des coûts. Enfin, je voudrais parler des résultats. Il y a 2 ans, sur la base du plan stratégique, notre communauté avait décidé qu'il nous fallait un fonds de réserve qui serait égal à une année de dépenses. Et il y avait 4 années pour construire ce fonds de réserve. Donc en 2007, à un moment donné, le comité des finances s'est lancé dans des consultations externes mondiales pour savoir quelle devrait être notre politique d'investissement. C'était un programme très conservateur, de façon à protéger ces fonds. Sur la base de ce plan d'investissement qui a été approuvé par le directoire, nous avons engagé une banque pour qu'elle gère cette politique d'investissement. Il y avait un taux d'intérêt très modéré et pendant 20 ans, ce plan a résisté au temps. il y avait 65% en actions et il y avait des possibilités de varier ce pourcentage. Et c'est la base sur laquelle le plan a été construit et exécuté. À Mexico, nous avons eu cette personne qui est venue parler de l'état des fonds et nous avons vu que nous avons bien fonctionné et que les résultats sont semblables à ceux d'autres portefeuilles. Néanmoins, nous avons demandé de nommer un consultant externe pour revoir cette politique d'investissement et pour donner conseil au directoire sur ce qu'il fallait faire avant d'avoir plus d'argent dans les finances. Voilà. Y a-t-il des questions au président du comité des finances, Dr. Goldstein? Merci beaucoup. Il y a une autre question dont on m'a rappelé que j'avais oublié en ce qui concerne le fonds de réserve et les politiques d'investissement, c'était que nous avions de l'argent en banque dans un compte bancaire normal. Et donc ce sont nos auditeurs qui nous ont dit que cela n'était pas une bonne façon de procéder. Donc il y a eu beaucoup d'élan qui a été donné à cette politique d'investissement et qui a démarré pas simplement par nous-mêmes, mais grâce à nos vérificateurs qui ont appelé notre attention sur cela. Je voulais que cela soit bien compris. Merci. Merci Steve. Y a-t-il d'autres observations, des questions, Raimundo? Je confirme ce que Steve a dit et je dirais même plus. Lorsque la politique d'investissement a été promulguée, nous avions environ 40 millions de dollars en cash et dans la politique, on ne dit pas exactement qu'est-ce qui est en cash, qu'est-ce qui va au fonds de réserve, mais quel est le cash qui est également conservé en cas de risque à la banque. Et à ce moment-là, on a décidé de mettre 20 millions sur le fonds de réserve et 10 dans la banque. Nous avons encore environ 10 ou 15, 20 millions à la banque.
Thank you. Ram, do you want to add anything to any?
Ram, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est tout. Merci. Je suis heureux du premier rapport d'un nouveau comité. Nous avons des comités qui s'attachent à nos activités clés et celui-ci est un rapport avec le contrat le plus important et ce sont les services de la fonction IANA. Donc, je vous présente le président du nouveau comité IANA. Merci, Monsieur le Président. C'est le premier rapport du comité IANA. Donc, je vais vous dire ce que le comité IANA doit faire avant de vous dire ce que nous avons fait. Donc, nous devons réviser les opérations d'IANA, donner des conseils à l'IANA en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques, l'examen des politiques. Il faut remarquer que la gestion n'est pas un mot que nous utilisons. Le comité du directoire s'attache à l'IANA, essaie de voir que les politiques à suivre sont raisonnables et que ces politiques sont effectivement suivies. S'il faut changer ce que fait IANA, alors là, il faut changer les politiques et c'est l'IANA qui s'en charge, ainsi que d'autres processus. Donc, en détail, il faut donner des conseils en ce qui concerne les opérations d'IANA en tenant compte de la stabilité, de la sécurité, faire un rapport au directoire tous les ans sur les obligations d'IANA et sur les accords qui gèrent la fonction d'IANA. Il y en a deux. Donner un conseil en ce qui concerne les fonctions de l'IANA et la façon dont elles sont menées et soutenir les objectifs de croissance des fonctions d'IANA et donner des conseils également en ce qui concerne la technologie de l'avenir. Donc, il faut voir IANA, voir le monde autour d'IANA et faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble. Nos membres sont moi-même, Raimondo Becca, Strive Cocker, Demi Getschko, Katim Touré. Et nous avons demandé également à deux membres qui sont des membres de liaison, Thomas Norton, liaison de l'IETF, et Suzanne Wolf, liaison de RSAC. Donc, nous avons eu des réunions depuis décembre tous les mois. Nous avons revu le contenu des listes de questions qui nous guident sur ce que nous devons examiner. Première chose, il y a des briefings sur les activités d'IANA. Le comité doit savoir ce que IANA fait. Et des mises à jour des projets de logiciels RZM et le processus d'assignation de zones de racines et les propositions de modification. L'idée de revoir les propositions de changement, c'est de nous assurer que nous connaissons bien les processus suivis d'IANA et que cela a été effectivement suivi. Nous avons également parlé du panorama de la fonction, des fonctions générales d'IANA, parlé des activités concernant les nouveaux GTLD, et nous avons débattu également de la nature et des processus qui entourent les relations d'IANA à l'extérieur, c'est-à-dire avec les TLC, avec ITF, les activités d'avenir. Nous devrions réexaminer les pratiques courantes pour développer les politiques d'IANA. IANA fonctionne très bien dans le panorama qui a été prévu pour l'organisation, mais il n'est pas toujours clair de savoir si c'est le meilleur panorama. Il faut voir les processus dont nous disposons pour apporter éventuellement quelques changements mineurs des politiques qui gouvernent l'IANA de façon à ce qu'elle fonctionne mieux pour la communauté d'Internet. Par exemple, les politiques sur les racines. Évaluer les résultats du processus de révision des processus de changement. C'est quelque chose qui va être fait cette année par des organes externes et continuer de revoir l'actualisation des activités, y compris DNSSEC. Et voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Non, merci. Merci beaucoup pour ce rapport extrêmement complet. Un nouveau comité également, dirigé par des éléments de la participation publique d'ICANN, le président de ce comité est Jean-Jacques Subrenat. Jean-Jacques. Je suggère de ne pas voir les diapositives. Je vais conserver celle-ci à l'écran parce que nous sommes dans une situation un peu particulière. Nous sommes un nouveau comité, mais nous avons été exposés au monde réel très rapidement puisque nous avons été invités dès le départ. Et merci aux organisateurs du sommet at large. Et donc, très rapidement, nous avons pu nous présenter à plusieurs réunions et je crois qu'hier, nous avons eu une réunion de participation publique et cela nous a permis de nous présenter à vous, mais également de commencer à écouter ce que vous avez à dire sur la participation publique. Je ne vais pas revoir la composition du comité, etc. Je crois que vous avez tous connu ce comité, mais je voudrais dire ici, d'une manière assez générale, ce que veut dire la participation et ce que nous avons commencé à réellement faire. Et troisièmement, y a-t-il des idées ? Il y a des idées que nous avons absorbées de vous-même au cours de ces premières journées à Mexico. Premièrement, quel est le but de la participation publique ? Nous en avons débattu au sein du comité et il y a eu plusieurs points de vue. L'un était de forger une définition spéciale de ce qu'est un utilisateur, ce qu'est un participant et ce qu'est la participation publique, mais pour plusieurs raisons, nous avons préféré à ce moment-là retenir la définition de la participation publique qui existe déjà dans une association qui est l'Association internationale pour la participation publique. Et c'est en ligne et vous pouvez le trouver facilement. De mon côté, je voudrais tenter d'adapter ces directives générales au cas spécifique de l'Internet et plus particulièrement à l'ICANN. Et si je devais utiliser une plaisanterie alphabétique, mais non, c'est pas une soupe de lettres, A, B, C. A, sensibilisation, awareness, sensibilisation pour tous les participants potentiels, c'est-à-dire sensibiliser en ce qui concerne ce qu'est l'Internet, quels sont les problèmes de gouvernance et ce qu'est ICANN. B, ce serait réunir, bringing, réunir ensemble les expectatives, les analyses et les solutions qui peuvent émaner de plusieurs parties de notre communauté. Et c'est contribution au développement de politique. Je ne peux que souligner ce dernier point qui, comme l'a dit notre président le jour de l'ouverture de cette réunion internationale de l'ICANN, il a dit « Le but de tout cela, c'est d'arriver à une étape où il y aura un plus grand nombre de personnes de plusieurs parties du monde qui pourront réellement contribuer au processus de développement de politique en apportant des idées et en apportant au débat. » Voilà donc quel est le but de la participation publique. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire préparer, cela veut dire réaliser, cela veut dire faire un suivi. Préparer, oui, bien sûr. Des documents en temps opportun, des programmes en temps opportun, éviter le double emploi. Et vous êtes peut-être intéressé par le fait de savoir que hier nous nous sommes sentis les victimes du crime cybernétique parce que notre participation publique ou plutôt la réunion du PSC s'est sentie en concurrence avec une autre séance en même temps qui était donc la lutte contre la cybercriminalité. C'était au moins pas une autre séance sur la participation publique. Maintenant, je vais voir la gamme de choses que nous avons reçues de vous. Je voudrais simplement prendre quelques exemples. La politique des voyages. Il est important que nous améliorons notre politique de voyage à l'ICANN et de la relier peut-être avec quelque chose de plus global. Le fait d'écouter la communauté en ce qui concerne les problèmes de visa notamment. Par exemple, un pays hôte pour une grande réunion comme celle-ci doit faciliter l'obtention de visa et d'une façon en temps opportun. Mais il y a une suggestion également qu'après ce genre de réunion, il ne faut pas que tout retombe. Il faut qu'il y ait une sorte de mécanisme de suivi pour que l'on puisse reprendre, noter toutes les contributions très importantes qui viennent après la réunion. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui a été dit par vous tous ici à la réunion ou par participation éloignée, je voudrais simplement dire deux ou trois choses. il faut élargir les systèmes d'interprétation et de traduction parce que, au fur et à mesure du développement, ICANN reflète la réalité du grand Internet et nous sommes de plus en plus internationaux. Autre chose, et notre président a insisté dessus, c'est l'accroissement de la participation des régions éloignées. Et je pense que ICANN doit relever le défi de devenir un leader mondial en termes de participation éloignée. Et nous avons également parlé des façons d'encourager la participation publique par le biais des moyens électroniques. Donc voilà, en bref, le rapport que je voulais vous faire en sachant qu'il faut moins écouter la théorie, mais plutôt essayer de réagir plus aux contributions que nous avons reçues au cours de ces dernières journées. Y a-t-il des questions ou des observations, Bertrand? Et ensuite, Raimondo, si je peux. Une observation très brève, dire que ça a été un débat extrêmement intéressant hier au sein de ce comité. Et j'attends avec impatience les prochaines réunions. Merci beaucoup et félicitations. Raimondo? D'abord en français et ensuite en espagnol. En français. Maintenant en espagnol. C'est simplement pour que l'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'espagnol ici. Mais maintenant que j'ai le micro, une suggestion que j'avais déjà faite dans le passé et qui s'est perdue. Et je saisis cette occasion pour répéter. Je crois que pour ceux qui travail à Internet et dans d'autres langues qui ne sont pas notre langue maternelle, ce qui est le plus difficile, c'est d'écrire une langue étrangère. Et par conséquent, ce que je demande, ce n'est pas qu'on traduise nécessairement les commentaires dans les listes publiques de participation, mais que l'on permette d'écrire dans notre propre langue. Et ensuite, ceux qui lisent les commentaires, ceux qui y répondent, alors eux, ils y répondront soit dans cette langue-là, soit dans une autre langue. Nous lisons presque tous très bien certaines langues, mais nous les écrivons avec beaucoup plus de difficultés. Voilà.
Thank you, Raimondo. I cannot speak on behalf of...
Merci, Raimondo.
Thank you, Jean-Jacques.
Je viens de dire. Merci, Jean-Jacques. Simplement, une fois de plus, je voudrais dire que l'on prenne note des commentaires faits hier lors de votre réunion, que en tant que président, il faut tenir compte des recommandations sur les échéances ou le temps pour la présentation des documents. Nous n'avons pas des échéances formelles. C'est ce que nous avons d'habitude, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de dépendances, beaucoup de travail. Il y a des dépendances ou des organismes qui ont beaucoup de travail. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas que le personnel ne rend pas les choses à temps. Donc, il ne faut pas mettre ces échéances, mais tout dépend des différents organismes qui se trouvent au sein même de notre organisation. Merci beaucoup. Nous prenons note. Thomas Russell, je parle comme étant quelqu'un qui forme partie du personnel d'une organisation et qui a des temps d'échéance trop strictes. Et au personnel aime avoir une politique en effet stricte pour que nous puissions exercer une certaine pression au groupe de travail. Cela est indispensable. Donc, sans cette politique stricte, on ne pourrait pas soumettre à nos groupes de travail à la discipline à laquelle ils sont soumis. Et je voulais inclure cela dans nos rapports. Et je me demande si le personnel d'ICANN pouvaient se soumettre à ce type de discipline pour leur personnel. Merci beaucoup. Nous prenons note. D'autres commentaires, d'autres questions? Excellent. Merci Jean-Jacques et bonne chance avec tous les défis qui se présentent pour vous et pour le comité. Maintenant, nous avons le comité de risque et c'est Bruce Tonkin qui est le président de ce comité. Bruce Tonkin, merci beaucoup. Je crois que le comité de risque est un comité totalement nouveau et nous travaillons avec le personnel pour élaborer un processus de risque assez standard comme pour toute entreprise, car il faut identifier les objectifs les plus critiques des ICANN et les actifs principaux, les objectifs principaux de ICANN et surtout quelles sont les menaces à ces différents objectifs pour avoir une série de risques sur lesquels que nous pourrons, auxquels nous pourrons donner des priorités. Aussi, quelles sont les méthodes pour réduire ces risques, car on ne peut jamais éliminer les risques totalement, mais on peut adopter des mesures pour les réduire, les mitiger et peut-être travailler ou faire en sorte qu'il n'ait pas lieu. L'organisation doit être réellement mettre en pratique ces techniques d'élimination ou diminution des risques. Nous n'avons qu'une première étape, mais trois objectifs de ICANN, objectifs clés. Premièrement, des opérations de questions stables pour inspirer la confiance, cela pour soutenir les CGTLD, CCTLD, ainsi que les registres d'adresses IP. Et autre chose qui n'est pas visible, c'est parce que nous devons soutenir les registres des paramètres et le travail de IANA soutient les protocoles techniques sous-jacents utilisés en Internet. D'autres objectifs, c'est être sûr de maintenir la confiance et le respect dans une zone, dans une seule zone DNS, racine DNS globale, ou bien organisée en Autriche et les comités consultatifs et tout le travail qui a été fait ces derniers jours. Et une grande partie dépend de pouvoir garantir que le comité de l'Internet global ait confiance dans une seule zone racine et le respecte pour pouvoir opérer des charges. La méthode dans laquelle la communauté globale est suffisamment confiante. Finalement, ICANN a une fonction spécifique quant au marché GTLD où ICANN a enregistré, a des registreurs et des enregistrés. Nous travaillons aussi avec certains risques contre ces objectifs. Une autre chose que nous cherchons, c'est que chaque un des principaux projets de ICANN est que le personnel puisse identifier les risques de ces projets et la façon de pouvoir les diminuer. Quelques exemples seraient le nouveau projet sur le IDN ou du GTLC au sein de la racine, et chacun de ces projets doit faire que les chefs des projets cherchent quels sont les risques et la façon de les diminuer. Donc, en fin de compte, nous espérons que pour les réunions de Sydney, nous aurons identifié les risques potentiels et nous aurons déjà commencé à planifier les ressources nécessaires pour les mitiger, les diminuer et lutter contre. J'espère que l'année prochaine et surtout lors de le prochain exercice fiscal, nous allons pouvoir bien utiliser tout ce qui se trouve dans les ressources. Et j'en termine. Merci, Bruce. Une question pour le comité sur les risques. Je pense qu'il y aura des coûts spécifiques pour chacun de ces animaux. Donc, il y aura d'autres types de risques pour lesquels il faudra se préparer. Un commentaire que j'ai fait ce matin, une question par rapport à ce commentaire lors du forum ouvert. Le comité va s'occuper de la partie du prix, la portion du prix du GTLD qui est en rapport avec l'évaluation des risques du GTLD Round. C'est une question pour Bertrand, car il y a plusieurs comités du directoire qui ont un certain niveau, comme le comité de risque, de finance et d'audit, et celui de Yana, qui s'occupe de cet aspect. Naturellement, pour Yana, c'est une fonction fondamentale qui doit identifier certains des risques et le pourvoir au comité de risque. Et des approches pour la diminution et contrôle de ces risques. Le comité d'audit vérifiera que cela soit fait. Et naturellement, il y a un risque quant au financement. Et le comité des finances est celui qui va s'occuper de ce type de risque. Et là, on fera partie au comité des risques, ce qui veut dire qu'il y a une interaction entre les différents comités. D'autres questions pour le comité des risques? Nous passons au dernier comité. C'est celui de l'amélioration structurelle, un nouveau comité qui reprend une fonction ancienne. Et c'est Robert Gaetano qui a présidé. Il a une fonction très importante. Merci, Monsieur le Président. En fait, c'était ma première diapositive, donc je peux passer à la suivante. Les membres du comité sont ceux qui apparaissent ici. Jean-Jacques, Raimondo, moi-même, Rita, membre du comité d'amélioration structurelle. Nos initiales, on nous appelle le SIC, soit dire malade, mais ne mettez pas oublié la lettre K, car sans ça nous serions des membres malades. Il y a trois tâches importantes que nous avons reprises du BGC et qui est en rapport avec la gestion des statuts, la révision. Cette organisation doit coordonner les activités des révisions. Nous avons 8 révisions, une techniquement est pour ainsi dire terminée et elle est dans son étape en pratique quant au GNC. Il y a différentes étapes de développement et après une qui est la GNSO qui va démarrer bientôt. Ce que nous faisons, c'est de créer des groupes de travail et nous assurer que l'on écrit les chartes, que l'on nomme les contractuels et tout ce qui est en rapport. Et après, la deuxième partie ou la deuxième tâche importante est d'apprendre du processus, de comment il a été développé jusqu'à présent et essayer de préparer le scénario pour le prochain cycle de révision qui nous sera demandé ou que demandera le directoire, mais ne pas répéter les erreurs qui ont été commises lors du premier cycle et ainsi avoir un processus mieux organisé qui soit le même pour chaque révision, au contraire de ce qui a été fait jusqu'à présent en ce qui concerne les révisions. Et la troisième activité qu'on nous a demandé est de donner un sens aux révisions, aux recommandations qui nous viennent de tous les réviseurs, par exemple la révision du NOMCOM ou du directoire ou de la LALC. Nous avons des recommandations qui sont sujettes à des conflits ou conflictives et nous devons les réunir et les coordonner, les mettre toutes au sein d'un cadre afin que, à la fin, pour les recommandations envoyées au directoire soient combinées. Pour cela, nous organisons hier une première réunion qui a eu lieu à 7 heures du matin avec les présidents des groupes de travail actifs pour pouvoir organiser cela. La dernière chose dont je parlerai, que dans cette salle, nous allons avoir à 5 heures de l'après-midi la révision du directoire. Ce sera une réunion à porte ouverte et je vous invite tous à participer et à poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Demain, on verra donc la question du GNSO. Je vais parler en anglais. Roberto et d'autres membres de ce groupe qui réunit les groupes de travail. Ce fut un plaisir d'avoir participé à la réunion que vous avez mentionnée pour regrouper les différents processus de révision que nous révisons. Et je voudrais faire un commentaire sur votre travail. Lorsque nous avons écrit cette partie des statuts qui oblige à une période de 3 ans de révision, je crois que nous avons eu raison en principe, mais nous avons créé trop de parties mobiles en même temps. Je crois que nous avons obtenu un bon résultat, mais maintenant il faut s'occuper de cette coordination des différentes parties des révisions qui peuvent demander une restructuration importante pour différentes fonctions et j'espère que le directoire, en respectant les processus ascendants et de consultation, saura voir clairement ce qu'il faut faire pour restructurer l'organisation et assurer un meilleur fonctionnement. Tout cela est toujours possible et j'espère que vous ne douterez pas à introduire les changements nécessaires, même s'ils sont très gros, et après cette consultation. Cette consultation obligatoire, merci de tes commentaires. Je ne peux pas parler au nom du directoire, mais en effet, il y a un point qui démontre que le directoire a vraiment l'intention de suivre ce chemin car il a créé un comité qui s'occupera des révisions. Donc, c'est un bon signal qu'il considère ce point comme une question très sérieuse et ils ont donc totalement l'intention de continuer de l'avant avec cet esprit d'amélioration continue pour établir les changements nécessaires. Une question. Merci Jean-Jacques. Nous revenons à Bertrand. Roberto, en tant que membre de ton comité, je voudrais dire que je suis très encouragée d'entendre Alejandro et d'autres qui ont rédigé les statuts et qui considèrent qu'il est temps de se sentir moins limité, étant donné le rythme qui nous a été imposé à un moment donné, mais cela a été nécessaire. Lors d'une dernière réunion, j'ai suggéré que nous ayons 2 choses. Une fusion du type de travail qui finisse par être utile dans ce domaine, et distinguer entre les différentes échéances, ne pas avoir uniquement toujours 3 ans pour tous les types d'activités, d'avoir une plus grande flexibilité. Deuxièmement, que nous comptions en principe sur de nouveaux cycles, non pas à la fin de la révision, mais pendant ou après la mise en pratique pour donner plus de temps. Bertrand. Mon premier commentaire hier Et j'étais un peu triste lorsque je me suis rendu compte que j'avais sauté, je n'avais pas assisté à la réunion de ce comité dont je m'en suis pas rendu compte et que cette réunion d'organisation, je ne l'ai pas vue et je ne savais pas qu'il s'agissait d'une réunion de ce comité. Je regrette beaucoup n'avoir pas assisté parce que je vois que c'est un élément très important, surtout pour articuler les différents processus des réformes, processus qui sont déjà en cours, soit à l'étape de réflexion ou même à l'étape de mise en œuvre. Et nous avons déjà le rapport Pietschi qui a des éléments qui sont en rapport avec le monde externe, mais il y a aussi des éléments des modifications internes et qui sont en rapport avec les révisions du CTLC et GLTD. Et des différents travaux des groupes. Je vais reprendre l'expression d'Alejandro sur les parties mobiles, les composants mobiles, et nous devons maintenant voir qu'est-ce qu'il faudra faire pendant les 3 prochaines années si nous voulons vraiment choisir un délai de ce type. J'espère que ce comité qui travaille avec le code doit est connecté avec celui de participation et j'espère qu'il tiendra compte de ces affaires et que ce soit une espèce de jointure pour pouvoir considérer ces points sous une approche intégrale pour que tout soit examiné en même temps. Je n'aimerais pas que chaque processus de révision soit fait séparément comme cela a eu lieu jusqu'à présent et je crois que c'est une excellente opportunité et avec un grand plaisir, je vais suivre l'activité de ce comité et comment il interagit avec le comité de participation. Merci beaucoup de votre commentaire. Nous avons effectivement toute l'intention d'interagir avec la communauté. Je crois que c'est le travail d'un contractuel qui vient de l'extérieur, qui a d'excellentes idées, mais ces idées doivent être mises dans la réalité. C'est le but du groupe de travail qui est composé par des membres du directoire, ex-membres et membres actuels. Mais la recommandation est soumise à la consultation toujours du public pour avoir aussi l'apport de la communauté. Et après, en tant que comité d'amélioration de structure, dans une des diapositives, on a vu quelle était la complexité des interactions. On ne pouvait même pas lire les diapositives. Il a fallu le mettre en toutes petites lettres pour pouvoir y mettre toutes les interactions. Mais c'est très intéressant et je crois que la participation du public est fondamentale car sinon nous aurions une structure où la communauté ne va pas percevoir comme étant sa propre structure. Si la communauté ne n'accepte pas les changements structurels, cela ne fonctionnera pas. Peut-être qu'on pourra rajouter une explication de pourquoi nous nous trouvons dans la situation actuelle, car il y a beaucoup de parties mobiles qui bougent en même temps. Et en commençant par le GNSO, où nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il est en face et tout le reste se trouve côte à côte et il n'y a pas eu suffisamment d'intervention dans la révision et nous en sommes rendus compte que trop tard. J'espère que la plupart des révisions ne seront pas aussi compliquées que celle-là. Il y a celle du RSA qui est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tellement d'unités constitutives, mais mon espoir est que, puisque nous avons un comité spécifique pour cela et que nous avons un directeur de la révision d'organisation qui forme partie du personnel et du staff, et je pense que le second cycle de révision sera bon en ce qui a trait au premier et sera bien plus rapide que le premier. Oui, nous avons un groupe de révision à l'Alcanom Com qui sont interconnectés et nous devons considérer ce point ensemble. Les autres n'ont pas tellement de corrélation et nous avons donc moins de problèmes. Mais comme je l'ai déjà dit, l'une des trois tâches principales de notre comité est celui de penser comment nous pouvons standardiser le processus afin soit que l'on s'occupe du prochain cycle de révision lorsqu'il aura lieu et que nous ayons au moins, s'il y a des erreurs, mais ce seront des erreurs différentes à celles que nous avons commises. Nous espérons ne pas commettre les mêmes erreurs, ne pas les répéter. Est-ce une question? Non. D'autres questions sur les révisions? Nous avons encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a peut-être pensé à une question à poser pour les différents orateurs ou une question pour moi-même? Dans ce cas, comme Roberto l'a expliqué, la prochaine session... Merci beaucoup.